est en mission pour le Seigneur.
Bonjour Pascal.
Salut Yann.
Ravi de te retrouver pour une nouvelle Metal Story.
Pareil.
Alors, cette Metal Story est consacrée à un monsieur que on aime beaucoup, qu'on suit notamment sur les réseaux sociaux depuis un petit moment. C'est monsieur Gilles Lartigot. Bonjour Gilles.
Salut à vous deux.
Salut Gilles.
Merci pour cette invitation.
Tu vas bien ?
Écoute, je vais bien, puisque je vais parler musique. Donc, la musique, en principe, me met en joie.
Oui, c'est un moteur, hein, je crois, hein, chez toi.
C'est une passion, et c'est une passion qui, puisque tu connais mon travail, qui est vraiment intégrée, en fait, à mes écrits. C'est une source d'inspiration, et ça a été un peu c'est d'ailleurs le fil conducteur de mes deux ouvrages.
Alors, je vais te présenter, hein, pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Donc, tu te définis comme un auteur, un artiste et un producteur de contenu, et cela depuis plus de 10 ans à peu près. Tu as notamment écrit 2 livres en collaboration avec ton épouse sur l'alimentation, la santé et la société. Eat One, Eat Two, 2 best-sellers, hein, vendus à plus de 120 000 exemplaires, bravo. Édité via ta propre maison d'édition, et tu revendiques le statut d'indépendant, d'ailleurs on en reparlera. Tu as un profil unique dans le milieu de la nutrition, de la santé, avec ton attitude très rock'n'roll, on peut le constater aujourd'hui. Et puis la musique comme fil conducteur, tu viens de l'évoquer, dans tes ouvrages, ainsi que des propos assez virils, sans langue de bois, sur pas mal de sujets de société, dont le sport, le fitness, le culturisme, et bien d'autres sujets, hein, évidemment. Culturisme, fitness, je sais pas si ce sont les bons termes que tu pratiques quand même depuis manière...
Non, pas du tout. Carton rouge.
Donc c'est pas les bons termes.
Non.
Alors quels sont les termes?
Le culturisme, parce que le culturisme, c'est... D'ailleurs, c'est la culture physique. Moi, j'emploie le terme, si tu veux, de culture physique. Parce que pour moi, c'est une activité physique. Ce n'est pas un sport. Donc, il y a effectivement des compétitions de bodybuilding, de culturisme, donc en langue française. Mais je me revendique pas du tout de ce milieu. Moi, je parle de culture physique. D'ailleurs, le manque, en fait, d'exercice physique, ça impacte directement notre santé. Et le fait qu'on soit comme ça en mauvaise santé, c'est lié à l'alimentation, à notre hygiène de vie, et aussi au manque d'activité physique.
Oui, d'accord, ok. Non, mais bonne, tu as raison de le préciser. Alors, côté musique, si on revient sur la musique, tu produisais il y a quelques temps une émission Heavy Metal Food, où tu parlais nutrition avec des légendes de la scène métal comme Beef de Saxon, Devin Townsend, Ryan Roxy, hein, le guitariste d'Alice Cooper, et bien d'autres artistes encore. Donc, j'invite nos auditeurs à aller voir ça de plus près. Et tu produis et animes via ton Hit Club une émission sur YouTube, Top of the Rock, sur les légendes du rock et du hard rock période 70s, 80s. Alors, je dois le dire, hein, du bonheur en barre, hein, moi j'adore, je suis un grand fan de ton émission.
Ah, tu es passé à la dernière émission sur
Motorhead. Voilà, tout à fait, ouais, j'ai fait un petit coucou, et d'ailleurs tu remercies pour ta dédicace sur le spécial Motorhead samedi dernier. Et donc avec tes compères Renaud Hanson, musicien, artiste accompli, fondateur de Satan Jokers notamment, groupe emblématique de la scène hard rock française de la première moitié des 80s. J'étais d'ailleurs à leur seul concert au Palace, et je me souviens encore d'une cover de Chain in Time de Purple. Donc c'est un grand souvenir pour moi. Et puis avec Pascal Mulot, aussi un bassiste incroyable, qui fait
très,
aussi
très
partie
grand bassiste.
Tes invités permanents, et qui joue notamment avec Renaud. Voilà. Donc d'ailleurs aussi une pensée à Laurent Carilla, un de nos amis communs.
Oui. Ah oui.
Qui était d'ailleurs le 5e homme de la Satan Jokers, on va dire, version 2000. Okay. Bah, je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et avec la première rubrique.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te coupe, mon cher Yann. Je voudrais juste préciser qu'on est à Ground Control.
Ah, bien sûr,
oui. Et oui, le lieu qui nous accueille aujourd'hui, qui est un lieu
incroyable,
exceptionnel. Une friche culturelle et de bien manger, de bien vivre, avec plein d'acteurs hyper intéressants.
Disquaire, libraire.
Exactement.
Lieu de vie.
Donc on remercie Laurent Dufay de nous avoir invités. Merci dans
beaucoup.
Ce lieu exceptionnel. Et on passe tout de suite, effectivement, mon cher Yann,
aux origines du mal.
Mon cher Gilles, nous sommes, comme on le disait tout à l'heure, ravis de t'avoir, mais on voudrait surtout te poser des questions, évidemment, et surtout savoir comment est née chez toi cette appétence pour le métal, et comment tu es tombé dedans quand tu étais petit.
L'appétence pour le métal m'est venue, pas en premier lieu, parce que je voulais vraiment citer un groupe qui ne fait pas partie de la sphère métal, qui est pour moi le groupe ultime, ça ne sera pas le groupe ultime de cette émission, mais c'est le groupe The Police. Voilà. Donc c'est l'album Regatta des Blancs qui m'a complètement retourné, qui m'a chaviré. C'est là où j'ai appris à jouer de la contrebasse, ensuite de la basse. Mmh. Et ça m'a fait plonger dans ce monde musical, parce que mes parents n'étaient pas forcément adeptes de musique. Et c'était l'époque des premiers Walkman.
Eh oui.
Donc je me souviens vraiment de cette cassette donc de...
Merci Sony.
De Regatta des Blancs. Ouais.
Et chez toi, donc pas spécialement de filiation musicale?
Non, mon père aimait beaucoup la musique militaire.
Ouais.
Tu vois, donc rien à voir avec le métal.
Il y a certains groupes qui s'en rapprochent, mais pas
oui, bon. Aujourd'hui peut-être. Ouais. Mais en fait, donc pour répondre à ta question, c'est lors d'une boom, tu sais, lorsque tu es adolescent. Donc je suis né en 66, donc ça va être fin des années 70, je devais avoir peut-être 12-13 ans, et certainement l'année 79, puisque le titre en fait qui me parle encore aujourd'hui et qui me ramène dans cette époque-là hyper nostalgique, tu vois, c'est un titre d'AC/DC, et c'est peut-être pas forcément le plus connu, d'ailleurs je sais pas s'il le joue beaucoup en concert, c'est « Touch Too Much ».
Non, il ne le joue pas beaucoup, non.
Ouais,
écoute, malheureusement. Ce titre, je ne sais pas, je l'écoute encore aujourd'hui, et pour moi, il restera à part dans la discographie d'AC/DC.
Ouais.
Touch Too Much, ça a vraiment été ma première, si tu veux, écoute d'une guitare avec un son de distorsion. Voilà, c'était dans une boom. Voilà, donc voilà. Après, j'ai accroché bien sûr au visuel, comme beaucoup de métalleux, hein, ouais, que ce soit AC/DC, que ce soit Maiden, etc. Ces visuels, des pochettes de vinyle, incroyables. J'ai, tu sais, vraiment une nostalgie de cette époque-là.
Ouais.
Parce que je pense que le compact disque et en plus, et après, donc les MP3, la musique digitalisée, a fait beaucoup de mal, en fait, j'irai tout dans tout le domaine artistique, la musique en général, puisqu'on ne prend pas le temps d'écouter un album.
Mmh. Ah oui, c'est sûr que l'écoute n'est plus la même, ouais.
Et puis il y avait voilà ces pochettes qu'on chérissait, voilà cet album qu'on mettait sur les platines avec le diamant, avec voilà une certaine. Il faut du temps aujourd'hui, ouais, comme je dis.
Un protocole.
Je dis souvent, il faut du temps pour apprendre. Mmh. Il faut du temps pour apprécier. Il faut aussi du temps pour apprécier des artistes. Aujourd'hui, un artiste, c'est juste un tube, c'est une playlist.
Et justement, tes premiers achats de support physique, c'était quoi?
Je pense que c'était Regatta des Blancs.
Ouais. Ouais. Et je ensuite, sur la partie plus métal.
Alors, après, la partie plus métal, ça a été Kiss.
Ouais.
Moi, j'étais un fou furieux de Kiss, comme beaucoup.
Comme beaucoup.
Je me souviens, lorsque j'ai commencé donc, à jouer de la basse, j'ai cherché après des groupes, des copains avec qui jouer. Donc, j'ai été recruté, entre guillemets, par une bande d'amis du lycée. J'arrive dans ce local de répétition, j'ouvre la porte, je tombe sur un poster quasiment grandeur nature de Gene Simmons. Et la stupeur, j'ai dit, c'est quoi? Ben, Kiss, tu connais pas Kiss? Ben non, je connaissais pas Kiss, tu vois. Donc là, grande, grande histoire d'amour.
Exactement. Grande. Et ta chambre, du coup, était couverte de posters.
Oui, parce que là aussi, je viens d'une autre époque. Je viens du passé, tu vois. Mais c'était toute une mythologie. C'était des fantasmes à gogo, Kiss. Tu vois, on recherchait des images, on était à l'affût des magazines musicaux, on découpait les couvertures, on coupait les photos, voilà, cherchait à tout prix de voir leur visage. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus possible, tout
non,
ça.
C'est plus pareil.
Donc en fait, on perd aujourd'hui avec cette information qui est disponible tout le temps, de partout. On perd comme ça, je dirais, de cette curiosité, un petit peu cette frustration également, tu vois, de pas tout savoir sur un groupe. Et oui, il faut qu'un groupe reste mystérieux. Si on sait tout, voilà, ça casse un peu la magie.
Carrément. Je vous propose d'écouter déjà ce premier morceau culte, évidemment, d'AC/DC. Touch Too Much, sur l'album Highway to Hell. Making love. On vient de s'écouter donc ce titre emblématique Touch Too Much qu'on entend peu hein, finalement, comme on disait en live en tout cas.
Ouais, on n'entend pas souvent.
Rarement
repris.
Dans
cette liste, ouais, c'est vrai. C'est un titre magnifique.
De l'album I Wait to Hell.
Et c'est voilà, Bon Scott dans toute sa splendeur.
On va passer tout de suite à la rubrique Live After Death.
Donc Gilles, si on parle maintenant de live. Tu disais oui non que t'étais né en 66, donc c'est quand même une période où notamment le hard rock anglais et un peu aussi américain dominait quand même. Alors je sais pas si ça dominait le monde, mais en tout cas il y avait quand même énormément de groupes, énormément de concerts. Enfin c'était d'une richesse incroyable. Est-ce que tu nous parlais d'AC/DC, est-ce que il y a des groupes par ailleurs? Peut-être plus tard, hein, c'est possible, qui t'ont marqué et pourquoi ?
Alors, je me souviens du tout premier concert parce que en fait, je suis sorti relativement tard, je devais avoir peut-être 16 ans. Donc, il était hors de question que je quitte la maison pour aller voir un concert. Et donc, j'ai convaincu mon père de m'amener voir un concert. C'était au Vélodrome, il me semble, de Marseille, pas au stade Vélodrome. Hein. Donc, c'était le concert d'Alice Cooper. Alors, j'ai un souvenir assez, si tu veux, bref de ce concert, parce que je lis sur le billet 20h30, donc mon père me dit à quelle heure ça finit. J'écoute peut-être papa à 23h, tu vois. Et donc j'arrive, 20h30, bien sûr, il y avait une première partie, tu vois, donc l'artiste fait attendre, etc. Il rentre sur scène 22h50, tu vois. Ah. Donc j'ai vu un titre. J'ai vu un titre d'Alice Cooper parce que j'ai imaginé mon père à 23h sortir, donc je n'allais pas le faire attendre. Et puis bon, à cette époque-là, pas de téléphone portable, hein, rien du tout. Donc pas moyen d'envoyer un SMS.
Un peu frustrant, quoi.
Très frustrant, ouais. Surtout que je n'avais pas l'argent sur moi, je n'avais pas pu acheter de t-shirt, tu vois, de la tournée, etc. Mais par contre, c'est un souvenir vraiment qui m'a marqué. Ouais. Vraiment qui m'a marqué.
Bah, surtout les entrées de concert comme ça, c'est toujours assez impressionnant. Hein.
À l'époque, ils arrivaient hyper en retard. Ouais, ouais. Donc voilà, il avait pris son temps et malheureusement, j'avais vu qu'une ou deux chansons. Mais par contre, c'était un concert qui m'est resté gravé en fait.
Et si je te parle de Trent Reznor, est-ce que ça t'évoque quelque chose?
Alors tu m'as demandé de citer un live, vu que j'ai vu des centaines, peut-être de milliers de concerts, c'est un peu compliqué, tu vois, c'est une question difficile. Mais je voulais absolument parler de Trent Reznor, voilà, que j'ai connu sur le tard, il y a plus une je crois une 10 ou 15 ans à peu près, je me souviens plus la date exacte. C'était un concert, donc un double concert, puisqu'il jouait deux soirs d'affilée, c'était à l'Olympia, ici à Paris. Comme je suis abonné à de la presse musicale, j'avais entendu parler des performances scéniques de Nanny Schneid, mais j'avais jamais eu la curiosité de jeter une oreille sur la musique. Et j'appelle mon ami, le chanteur de Dagoba, je lui dis, écoute, voilà, je suis devant l'Olympia, là, je suis avec Valérie, on a moyen d'avoir deux places, là, des gars qui les vendaient pas trop cher, de Nanny Schnell, est-ce que ça vaut le coup? Il me dit, ne réfléchis pas, vas-y. Bon.
2007, donc, hein, l'année, je crois, c'est ça.
Voilà, je te l'ai noté, c'est ça, 2007, et voilà, j'ai noté le concert. Et donc, on rentre avec Valérie, on se met au balcon. D'un coup, on comprend pas. Enfin, il y a de la fumée, un groupe qui arrive sur scène. Parce que je savais même pas à quoi il ressemblait, tu vois. Je n'avais jamais jeté une oreille, donc je savais que c'était du métal indu. Et puis là, un bordel. Mais en fait, c'était eux sur scène. Voilà. Donc, et là, je suis resté scotché pendant 2 heures. Une gifle monumentale d'une musique que je ne connaissais pas, d'un style que je connaissais très peu, métal indu, mais vraiment un choc. Et à partir de ce moment. Je crois que c'était la sortie de l'album Year Zero, il me semble, avec toute une campagne marketing où il jetait des clés USB dans les toilettes, tu vois, des concerts où les fans des geeks, tu vois, décodaient les clés pour arriver sur des sites pirates avec des titres, etc. Enfin, un truc de fou, tu vois, au niveau de la promo. On était en plein, j'irais, dans le développement des nouvelles technologies, tu vois. Donc ça m'avait en plus encore plus attiré parce que j'étais là-dedans. Et quasiment pendant un peu plus d'un an, j'ai écouté que du Nanny Schnell.
Ouais, ok.
J'ai écrit une thèse là-dessus. Ouais, j'ai écrit une thèse. J'ai écrit une thèse sur Trent Reznor. Peut-être en faire quelque chose. Mais j'ai trouvé cet artiste réellement passionnant. Son addiction à l'héroïne, son Dans Noir Spiral, ce double album qui est fabuleux. Le morceau Hurt, puis c'est un génie. Et dans Train 13 Nord, en fait, ce que j'apprécie, avec des artistes comme lui, comme Sting, etc., c'est que c'est immédiatement reconnaissable. Il travaille avec des mélodies qui sont quelquefois dissonantes, mais il a une originalité, il a un son, voilà, et il a une façon de composer qui est vraiment bien à lui. Et pour ça, j'encourage à ceux qui ont la chance de voir Nanny Schnell en concert, d'aller voir le groupe, même s'ils ne connaissent pas la musique. Voilà, on rentre dedans.
Et puis d'écouter la disco qui est quand même assez dingue, enfin très très varié, hein. Il y a beaucoup d'univers en fonction des périodes, etc. Donc c'est très intéressant. Alors du coup, dans les titres que tu as choisis, on va s'en passer un. Donc c'est Head Like a Hole, qui est extrait de l'album Pretty Hate Machine, 89.
C'est le tout premier album, en fait, et c'est un titre voilà qui commence relativement lentement avec un refrain qui déboîte, et on ressent immédiatement la patte de Trent Reznor avec justement ces mélodies légèrement dissonantes.
Et l'enregistrement qu'on va écouter, donc c'est un extrait de la tournée, c'est en live, donc Fragility 2.0, donc qui a été enregistré en 2000,
énorme,
je crois.
Énorme concert. Voilà.
Like a hole, black as your soul.
On vient de s'écouter Head Like a Hole, donc l'album Pretty Head Machine de Nine Inch Nails, choix de Gilles. Et maintenant, on va se demander, on va demander surtout à Gilles, quel est son groupe ultime. Donc Gilles, alors sur, on est dans la rubrique Overkill, donc le groupe ultime qui écrase tout, même si évidemment c'est très difficile quand on est mélomane, mélomaniaque, comme tu l'es, et tu nous l'as dit, hein, que c'était important la musique, et ici autour de la table on partage tous cette
passion. On l'est aussi, je te rassure.
Mais bon, il faut en choisir un. Alors tu peux évoquer d'autres groupes hein, évidemment qui te semblent, qui sont quand même dans ton panthéon personnel. Mais voilà, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Donc,
ouais, mais le choix, il est fait. Surtout que c'est un choix, je pense, qui peut être surprenant. Mais c'est toujours un groupe qui est classé dans le métal. Voilà. Bien qu'il fasse aujourd'hui une musique considérée comme du rock progressif, assez mélancolique. Voilà. Ce groupe-là, c'est un groupe anglais qui est de Liverpool, il me semble.
Ouais, Liverpool.
C'est une fratrie. C'est les frères Kavanagh. Et le groupe, c'est Anathema. J'ai un gros coup de cœur pour Anathema. Lors de ma première rencontre, ils étaient au Hellfest. C'était en 2010. C'était avant que j'écrive, en fait, Hit. Et je commençais les émissions Heavy Metal Food, qui continuent encore. J'ai un peu moins d'opportunités aujourd'hui, hein, étant dans le sud de la France, de rencontrer des artistes, mais les émissions continuent toujours. Et j'ai eu la chance de rencontrer Vincent Kavanagh, qui est le chanteur, parce que sa compagne de l'époque était végétarienne, et elle avait entendu dire que je traînais dans le coin presse en faisant des interviews plutôt sur l'alimentation, et puis c'est elle qui m'a qui a enjoint l'équipe donc de conférence de presse, là, l'équipe de presse de me faire rencontrer Vincent, et gros coup de cœur pour cet artiste. L'interview, on peut la voir sur ma chaîne YouTube, et il était très intéressé par ce que je lui proposais comme question, tu vois, qui tournait autour de l'alimentation,
ouais, démarche,
etc.
Ouais.
Voilà, et je connaissais pas vraiment, tu vois, Anathema. Donc je les ai découverts en concert, et ensuite j'ai découvert cet album qui est pour moi incroyable, qui s'appelle Weather System. C'est un album que j'ai dû écouter des milliers de fois, parce que je fais de l'opto-hypnose avec cet album. Il y a une énergie qui est tellement apaisante dans la musique d'Anathema que je faisais des siestes en fait en écoutant cet album. Alors c'est pas un album qui endort, c'est pas ce que je veux dire, mais je connaissais tellement l'album par cœur. Je me diffusais le début de l'album, et je m'endormais quasiment jusqu'à la fin. Je me réveillais toujours au même moment, et j'ai eu l'occasion de les revoir plusieurs fois, notamment à Montréal, un concert au Foufoune électrique, je sais pas si vous connaissez cet endroit.
Dans la rue, c'est la rue Sainte-Catherine, non?
C'est ça. Et donc c'était un concert qui était magique. Et pour moi, la musique d'Anathema est à part dans le métal. Alors voilà, ça peut surprendre certains auditeurs, voilà, vous n'entendez pas des guitares distordues, mais c'est des compos qui sont magnifiques. Le frère Danny Kavanagh est un guitariste extraordinaire. Il y a des musiciens exceptionnels dans ce groupe, mais surtout au niveau des compositions, de leur univers, parce qu'ils sont partis quand même d'une musique de doom gothique,
bah
tu
oui,
vois,
c'est ce que j'allais dire. Moi j'ai écouté ça à l'époque de Tiamat et
j'ai pas connu cette époque là
vraiment courant 90, et c'était vraiment doom,
c'est méconnaissable. Apparemment c'était plutôt l'univers du bassiste de l'époque,
ouais.
et ensuite ils ont dérivé vers cette musique, il y a maintenant plus de 15 ans. Et c'est un album qui pour moi restera à part dans ma discographie.
C'est un groupe de 90.
Bien sûr.
Et il y a un live qui s'appelle Universal, qui pour moi voilà un album, l'album ultime, parce que je l'emporterai sur une île déserte. Voilà, c'est un album apaisant, et je pense qu'aujourd'hui on a besoin de ce type de musique. Voilà, c'est bien d'écouter Rammstein. Je suis très très fan de Rammstein. Là, tu vas le live, j'avais voilà, j'hésitais avec Rammstein parce que pour moi le groupe ultime en live c'est Rammstein. Voilà, au niveau, si vous cherchez la puissance, la débauche, je dirais, de pyrotechnie. Alors, je sais pas ce que ça donne dans les stades. Moi, je les ai vus plutôt dans,
ça donne
les
bien
salles.
Dans les stades.
Je suis allé les suivre en Allemagne, notamment en Allemagne de l'Est. Je suis allé à Berlin-Est, dans le vélodrome de Berlin-Est, avec 5000 Allemands, vivre un concert de Rammstein. Je t'assure qu'avec Valérie, on s'en souvient encore.
Tu voilà. M'étonnes.
C'est énormissime, voilà. Mais je voulais absolument citer Anathema, parce que voilà, c'est un petit peu, j'irais, un contre-pied dans la tendance actuelle, hein, notamment au niveau de la musique extrême, la musique voilà, dite métal.
Même si le prog a une vraie communauté, marche très bien, enfin il y a des magazines spécialisés, enfin
bien sûr.
C'est un univers qui
aujourd'hui métal ça regroupe, je crois, à peu près 80 styles de musique différents,
c'est
donc
large.
C'est très très large, donc pourquoi mettre aussi AC/DC dans du métal, tu vois, donc,
oui. Exactement.
On est d'accord. Mais en fait, c'est l'esprit métal, c'est pas juste la musique extrême. C'est l'esprit. Et moi, mes goûts vont plutôt vers des groupes mélodiques. Voilà. J'ai un peu de mal, je vous avoue, avec le chant grôlé. Je peux apprécier, voilà, certains titres, mais écouter tout un album, voir tout un concert, où il n'y a pas de mélodie, ça me dérange un peu. Voilà. Tout c'est, je dirais, les shredders, quand ça va vite. Bon, moi, voilà, il faut de l'émotion. Je suis très, très fan du groupe Toto aussi. Je connais personnellement Steve Lukather, qui est un gars à la guitare, je sais pas, il te fait venir les poils, tu vois.
C'est,
il y a peut-être pas la rapidité, voilà, tu vois, de Steve Vai ou autre, mais voilà.
Ok, bah, si on s'écoutait dans un extrait d'Anathema, donc The Untouchables, hein, alors, Part 1.
Alors oui, je t'ai dit, Untouchable, il y a deux parties,
oui,
voilà, pour moi qui sont indissociables, elles font 12 minutes.
Ouais,
je sais pas
ça.
Si vous allez les programmer, mais c'est titre qui est très beau.
Ouais, il est.
Écoutez les paroles.
Il s'écoute bien.
Guess that you can't heal me through this song. And my love will never die. And my feelings will always shine. Always shine.
Voilà, on vient d'écouter un magnifique titre d'Anathema. Ça, du coup, ça me donne envie de me replonger dans le, voilà, dans cet album que j'ai probablement complètement.
Weaver System, zappé. Ou écoute le live Universal. Je vais réécouter
ça. Ça me changera de l'époque où c'était Doom, tout ça. Et on passe tout de suite à la rubrique So French. Mon cher Gilles, on va parler un petit peu de la scène française. Dans cette émission, on aime la mettre en avant. On est appuyé, soutenu par la SACEM et la DAMI qui jouent le jeu avec nous sur le soutien à la scène française. Et donc, je voulais savoir un petit peu, toi, quel était ton rapport à cette scène française, métal notamment. Je sais que forcément, de Marseille, tu as un point de vue aussi intéressant à nous donner. Comment tu as vécu cette scène? Comment tu l'as? Quels sont les groupes que tu aimes?
Alors la scène française, moi, mais enfin les groupes que je suivais à l'époque, bien sûr c'était Trust, mais aussi Téléphone. Mmh. Moi, j'étais pas forcément l'un ou l'autre. J'aimais les deux. J'ai suivi également, mais bien sûr les Saint Anne Joker. Cette époque, tu sais, flamboyante, qui a duré très peu de temps. Hein, j'avais 4-5 ans.
85, hein, 86 quoi.
Voilà. Ouais, c'était très court. Mais je m'y suis en fait replongé. J'ai beaucoup de nostalgie aussi de cette époque-là. Notamment des premiers albums de Trust.
Gilles, jusqu'à 85-86, qui est pas de d'incompréhension. Hein. Voilà, ça s'est arrêté voilà à peu près dans les années 85-86.
C'est ça. Pour des questions aussi, voilà, c'est le manque de soutien de la presse, manque d'organisation, manque de professionnalisme. Bon là, puis la France n'est jamais été une terre de rock, encore moins de métal. On est d'accord là-dessus. Mais j'ai des groupes voilà qui me restent, notamment un groupe qui est marseillais. Je savais pas en fait qu'ils étaient marseillais. Il s'appelle Klaxon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce groupe-là. Tu te souviens de ce groupe-là? Klaxon avec cette magnifique visuel, tu sais, de Rolls.
De Rolls.
Tu te souviens? Ouais. Voilà. Je crois qu'il a été réédité là. Et voilà, il y a des Warning également, tu vois. Et c'est des de la musique que j'ai écoutée. Voilà, j'étais ado, donc j'ai encore un attachement par rapport à cette musique. Bon, on peut dire que ça a quand même un petit peu vieilli. Mais tout à fait par hasard, j'ai replongé en fait début des années 2000, puisque j'ai créé un label au début des campagnes de crowdfunding, etc., du piratage des MP3 et tout. C'était début 2000. J'ai créé un label qui s'appelle Internaute, qui existe toujours, et j'avais été invité sur un tremplin rock à Marseille. Je crois que c'était en 98, pour être jury, il me disait, écoute, il y a beaucoup de groupes de rap, etc. Il y a un groupe de rock, notamment de métal, mais on comprend pas, en fait, ce qu'ils jouent. On pense que c'est bien, mais en fait, on n'est pas capable de juger. Est-ce que tu pourrais venir? J'arrive, j'ai pas forcément, d'impact, j'ai pas de coup de cœur immédiat, mais je me dis, ces gamins, ils ont quelque chose. Ça jump sur scène, ça envoie du lourd, il y a un batteur incroyable. Il y a un gars un frontman qui est là, qui est présent, et c'était un tout jeune groupe qui s'appelait Dagoba. Et là, bon, un peu de forting, on les fait gagner en fait. Et voilà, on les fait gagner un enregistrement d'un EP dans un studio avec qui on collaborait. Ça a été donc l'EP Release de Fury, premier EP de Dagoba, sorti en 500 exemplaires, collector, hyper collector aujourd'hui. Et ça a été la première signature de mon label en fait. Ah oui. Et donc j'ai produit ça avec un ami André Amparzoumian, avec une personne aussi qui travaillait à la ville de Marseille, qui s'occupait d'un studio d'enregistrement qui s'appelait Hyperion, qui est Alain Battaglia. Et en fait, à nous trois, voilà, on a eu un coup de cœur pour Dagoba. Ils étaient jeunes à l'époque, hein, ils avaient à peine 18 ans. Et donc on a produit le premier album qu'on a signé également, distribué chez Edel, 10 000 exemplaires je crois à l'époque, voilà, c'était un joli succès. Ouais. Mais après j'étais limité parce qu'ils chantaient en anglais, j'avais pas forcément de contact à l'étranger, et on a transmis, je dirais, le contrat avec une poignée de main, tu vois, il y avait pas d'arrière-pensée vénale comme aujourd'hui, à un label que j'aime beaucoup qui s'appelle Season of Mist, notre ami Mika, qui est devenu un gros label international, tout ça, et qui a fait What It Is About, etc., qui a lancé en plus la carrière de Dagoba. Donc j'ai toujours la grande fierté, et puis Shouter me la rend bien également, puisque ça fait 20 ans qu'on est amis, c'est assez rare dans ce milieu, en général on se fâche assez vite. On a beaucoup de respect l'un envers l'autre. C'est quelqu'un qui mène le groupe vraiment de la tête et des épaules, et puis... ils continuent aujourd'hui, ils n'arrêtent pas de progresser, ils font des tournées internationales, ils en vivent surtout.
Oui, oui.
Et pour moi, c'est une très très grande fierté, donc je ne pouvais pas ne pas citer Dagoba. Donc voilà, c'est Dagoba. Je t'ai suggéré un titre du premier album éponyme Dagoba, donc c'est un titre qui s'appelle Another Day. C'est un titre qui, c'est le seul où il y a un petit refrain mélodique, parce que j'ai dit à Shouter, écoute, il met un peu de mélodie, le truc. Non, mais ça grôle, tu vois, un peu de mélodie, donc j'ai un peu fait le forcing, il a sorti Another Day, qui est pour moi un de mes titres préférés, qui est un titre préféré aussi des fans, et je vois aujourd'hui, 20 ans après, c'est devenu de plus en plus mélodique, hein, oui. Parce que vous écoutez le dernier, c'est très électro, et c'est pas de la pop, on est d'accord, mais la mélodie restera toujours la mélodie.
Oui, oui. Ouais, les temps ont changé donc, un petit peu, effectivement.
Donc voilà, j'ai cette grande fierté d'avoir été à l'initiative de la découverte de ce groupe.
La course au Je joue au dur des années 2000, c'est un peu lissé avec l'âge aussi, effectivement.
Et c'est dur pour un groupe français, qui plus est marseillais, parce que bien sûr,
oui, c'est
de Marseille, on te colle toujours une étiquette, tu vois.
C'est ça, arrêter, c'est ça.
C'est un groupe français, et puis ils représentent la France aussi à l'étranger. Ils ont fait de belles tournées. Je me souviens, il y a 5 ou 6 ans, ou même peut-être un petit peu plus, ils avaient fait une tournée en première partie de Dylan Gray, un groupe japonais.
Oui, c'est ça.
Exactement. Ils avaient joué à l'Irvine Plaza à New York. Donc j'étais venu en voiture de Montréal à New York et j'ai vécu ce concert avec eux. Je vous ai vu qu'on a eu une petite larme dans les loges, tu vois.
Dagoba, pour moi, c'est un des groupes qui a relancé un peu le métal aussi en France dans les années 2000, puisque la scène était un peu moribonde. Et ça fait partie des groupes qui ont quand même tiré aussi la machine à un moment et qui aujourd'hui, à qui on doit notamment cette capacité un petit peu au groupe français aujourd'hui d'avancer à nouveau, puisque la scène elle est à nouveau assez vive et assez efficace. Donc je vous propose qu'on écoute donc ce morceau Another Day, donc de l'album Dagoba, sorti en 2003, et je vous propose même d'enchaîner sur un autre groupe marseillais que tu connais peut-être pas, qui s'appelle Landmarks, qui a sorti plusieurs albums, donc il y a un jeune groupe, donc le morceau que je vous propose d'écouter s'appelle Lost in a Wave, et leur dernier album s'appelle Lost in the Waves, à ne pas donc mélanger, l'album sorti en 2021, et donc je te conseille d'écouter ça parce qu'il y a beaucoup de mélodies aussi là-dedans.
Thank you.
On vient de s'écouter deux extraits de groupe Made in Marseille, ça fait du bien parce qu'on voit que tout ne se passe pas que à Paris et en région parisienne. Et on va enchaîner sur le Wall of Death. The Wall of Death. Alors mon cher Gilles, cette rubrique un peu culte de Wall of Death consiste à te poser quelques questions rapides et auxquelles tu peux répondre a priori de manière relativement rapide, mais si tu as envie d'épiloguer, il n'y a pas de problème. Première question, tu es plutôt Terminator ou Annihilator ?
Terminator ?
Terminator.
Mais je fais référence au film, bien entendu, avec le grand Arnold Schwarzenegger.
Évidemment. À choisir, mon cher Gilles, avec qui aimerais-tu passer une journée ou une soirée éventuellement ? Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer
Peter Gabriel.
Ouais.
Malheureusement, bah oui.
Non, mais c'est classe.
Pas
c'est
de
classe.
La scène métal.
C'est bien, c'est bien. Et dans la scène métal
Dans la scène métal, Trent Reznor. Ouais. J'ai jamais eu l'occasion, en fait, de l'interviewer ni de le rencontrer.
Alors, tu préfères Whiskey in the Jar ou Cold Gin?
Écoute, on va parler de Phil Lynott alors, Whiskey in the Jar, parce que Phil Lynott, j'ai lu sa bio, là j'encourage ceux qui nous écoutent à lire les biographies. On a un éditeur en France qui s'appelle Camillon Blanc, qui édite des biographies, notamment dans le monde du rock, et je vous encourage de lire les bios là. Tu sais, j'ai reçu donc... C'était donc Julien de l'Église qui a écrit la bio sur Fast Eddie Clark. Et j'ai choisi en fait d'avoir le prisme de Fast Eddie Clark pour faire le premier épisode de Motorhead sur Top of the Rock. Et quand tu découvres comme ça la vie des musiciens, que tu te remets dans le contexte de l'époque, comment ils ont enregistré, tu vois les albums, tout ça, tu te remets tout ça en boucle. C'est magique.
Et t'écoutes les albums en même temps, c'est génial.
Ah oui, j'écoute tous les albums en même temps. Donc je me suis refait toute la disco de Thin Lizzy. J'étais passé à côté des premiers albums aussi, tu vois, parce que très souvent tu t'arrêtes, voilà, sur les tubes ou ce qui se joue en concert, mais et puis c'est toujours des tragédies en fait dans notre musique. Il y a que des tragédies, il y a que ça en fait. Et quel bassiste incroyable.
Alors dernière question, Gilles. Alors t'es plutôt America avec un K ou Made in Japan?
Alors américain, c'est avec un K, voilà. Donc Rammstein, c'est la claque, gros coup de cœur, et puis quand même avoir ces couilles de garder la langue natale, cette langue allemande, voilà. Et pour moi, Rammstein, c'est un allemand, ça sonne pas en anglais. Voilà, ils ont essayé le truc en anglais, voilà, mais. Voilà.
Bon, écoute, il nous reste à te remercier, Gilles. C'était vraiment un moment passionnant de t'écouter, de vibrer avec toi sur cette musique qu'on adore, évidemment. Merci, Gilles, et à très vite pour une prochaine Metal Story.
Exactement.
Metal Story. On est en mission pour le Seigneur.